me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 12. Généralement, tu le sais, je fais des petites présentations amusantes de mes remarquables. Et là, honnêtement, non pas que le personnage ne soit pas inspirant, mais je n'ai qu'un mot pour le définir. Et parce que de nos jours, on oublie que les mots ont un sens, une histoire, voici la définition de ce mot selon Wikipédia. La résilience désigne la résistance d'un matériau au choc, la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système à surmonter une altération de son environnement. En termes de résilience, mon invité, c'est quelque chose. Gaël Leblanc, bienvenue.
Bonsoir.
Est-ce que ça te va comme mot, résilience ?
Alors, c'est vrai que c'est un mot dont on a beaucoup entendu parler, qui a été très à la mode dans les médias il y a 10-12 ans, lorsque Boris Cyrulnik a mis en avant ce processus, hein, puisqu'on parle quasiment d'un processus de rétablissement psychologique. Donc le mot me convient tout à fait. Après, c'est vrai que je l'utilise jamais parce que c'est un mot presque médical, tu vois. C'est que c'est les gens qui disent, tiens, il est en résilience ou c'est résilient, mais toi, tu te dis pas, tiens, je suis en résilience. Tu te dis, je suis les pieds dans la merde et comment je vais m'en sortir.
Exactement, ouais.
C'est plutôt comme ça. Donc, effectivement, affronter les choses, mais je crois qu'on affronte tous plein de choses. La vie est assez longue, de toute façon, pour que, à un moment, tu prennes 2-3 coups dans la figure. Tu peux pas passer une vie entière sans être confronté à la mort, à la maladie, et même si c'est pas la tienne, c'est celle d'autrui, de toute façon. Donc, tu peux pas aller à l'encontre de ça. Donc, effectivement, t'affrontes, tu subis, t'encaisses aussi. Je trouve que dans la définition que t'as sur Wikipédia, elle est très... je sais plus, t'as parlé de résistance, mais il y a aussi l'adaptation. C'est-à-dire que c'est un peu comme en boxe, tu encaisses le coup aussi avant de remettre. Et t'es obligé de l'encaisser. Parce que si tu l'encaisses pas, tu romps, tu te brises.
Alors on va parler de tout ça, pourquoi je parle de tout ça et pourquoi je t'ai invité. Il y a d'abord une première tradition dans ce podcast, c'est que je demande à mon invité ce qu'il veut boire. Et comme on est via Skype, c'est totalement virtuel, tu peux prendre ce que tu veux.
Eh ben, je vais bien prendre un petit verre de San Pellegrino bien frais, s'il te plaît, sorti de ton frigo.
Eh ben, très bien, voilà, je te le sers à distance, totalement virtuellement, et j'espère que virtuellement tu l'apprécies.
Il est très bon, très frais.
Gaël, on s'est rencontrés l'été dernier au Festival d'Avignon parce que tu es auteur. Alors je vais parler de toutes les choses que tu fais, mais tu es d'abord, pour le coup, ici, auteur et comédien d'un spectacle qui s'appelle « Tu seras un homme, papa ». Que j'ai vu donc moi l'année dernière qui se jouait au Ninon Théâtre, et je le dis très clairement d'entrée de jeu, ça a été le spectacle le plus bouleversant que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Voilà, c'est juste quelque chose que je trouve de profondément fort, humain et à la juste distance en fait. J'ai cherché souvent les mots pour parler de ton spectacle. J'ai dit que c'était le spectacle qui était pour moi à la juste distance. Et on va en parler, puisque ce spectacle raconte les 13 jours de vie de ton premier enfant, de votre premier enfant que vous aviez eu, avant que malheureusement il ne décède. Et tu as décidé de raconter ça dans ce spectacle, dans lequel il y a 1000 autres choses, et il y a aussi de la fiction, il y a aussi tu as mis plein de choses en parallèle avec le sport, et ça tu vas en parler. Et simplement pour la petite anecdote, je salue ici Michael Oudou, qui est notre ami en commun, et qui m'avait dit, quand tu seras à Avignon, Lilian, faut absolument que tu ailles voir mon copain Gaël. Il a fait un spectacle fantastique, tu verras. Et Avignon, c'est la folie. J'avais complètement oublié ton nom, j'avais complètement oublié ton spectacle. C'est Stéphane Baquet qui m'a dit, va voir, tu seras un homme, papa. Et lorsque j'ai vu le spectacle, je me suis dit, mais putain, c'est ça. C'est Michael qui m'a parlé de ce garçon. Et c'était assez incroyable. Alors, est-ce que tu peux me parler effectivement de ce spectacle et de la genèse et pourquoi avoir écrit effectivement sur ce traumatisme, cette tragédie, quoi ?
Écoute, certainement parce que ça m'a sauvé. Je l'ai pas vraiment décidé, ça s'est fait au fur et à mesure. Nous, avec ma femme, on avait déjà deux filles, en fait.
D'accord.
Roman, c'est notre premier fils, notre
D'accord.
troisième enfant, et on avait déjà deux filles qui avaient 4 et 7 ans en 2014. Donc, on a eu notre petit garçon, Roman, qui est né le 24 mai 2014 et qui est décédé 13 jours plus tard, le 6 juin 2014. Il est né avec un syndrome grave et un syndrome rare qui s'appelle le syndrome CHARGE. CHARGE, c'est un acronyme, c'est 6 lettres, une lettre pour chaque malformation
Ah oui.
et chaque lettre est une malformation congénitale importante. Après ce drame, si tu veux, moi j'avais tout de suite écrit, parce que je suis dans la production télé, j'ai réalisé, j'ai produit des documentaires, mais je viens plutôt du réel et pas de la fiction. Et donc j'avais un
Et de
peu dans un...
l'autre côté aussi de la production, t'es pas acteur à la base, je crois, c'est ça.
Non, non, pas du tout, bien sûr, non.
Voilà.
Ni auteur, ni acteur, mais dans un souci un peu de conserver une trace de tout ce qui s'était passé, j'avais... écrit une sorte de chronique d'un papa triste, si tu veux, et je voulais marquer tous les jours ce qui s'était passé, les horaires, les salles, les noms des médecins, tous les endroits, tous les petits détails, pour plus tard me souvenir de ce qui s'était exactement passé, parce que je savais bien que 10 ans plus tard, tu vois, après t'as des doutes dans l'enchaînement, mais comment ça s'était passé, je voulais tout noter. Puis aussi pour mes filles, pour leur raconter, parce qu'elles étaient petites, et dire à 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien pouvoir à chaque fois leur raconter voilà l'histoire de manière juste et transparente. Donc j'avais ce texte qui était très lourd, parce que c'était vraiment une chronique un peu jour par jour, heure par heure. Et puis dans, je peux pas te dire pourquoi, je peux pas te dire comment, mais j'avais une intuition, une conviction intime que cette histoire devait se transformer en un objet théâtral. La facilité et la normalité auraient voulu que j'en fasse un documentaire parce que c'était mon univers. Et pourtant, je savais intérieurement que le documentaire ne pourrait pas retranscrire à 100% tout ce qu'on avait vécu. Comme si tout d'un coup, je savais que le documentaire, on allait être dans un plan 2D, dans une télé, et que si tu veux, il allait y avoir un écran, mais il manquait quelque chose de plus complet, de plus entier, de plus à 360, tu vois, il fallait que ça parte à gauche, à droite, en haut, en bas, dans tous les sens, comme une explosion. Et donc j'avais cette idée du théâtre, mais sans savoir, bien sûr, ce que ça allait devenir 3-4 ans plus tard. Et dans mon réseau, je n'avais que des gens de télé et personne de théâtre. Et en fait, j'avais un ami d'enfance, Thibaut Amorfini, que je voyais un petit peu régulièrement, mais on était chacun dans nos univers, lui dans le théâtre, moi dans la télé. Et puis, je lui ai envoyé le texte. Il était bien sûr au courant de ce qui s'était passé, parce que nos mères se connaissent bien. Et il a lu le texte, il m'a dit, tiens, c'est fort. Et je lui ai dit, écoute, voilà. Il y a peut-être quelque chose à faire. Entre-temps, je ne peux pas te dire pourquoi non plus, un soir d'octobre, un peu dans un moment de déprime, il pleut, il fait froid, je m'inscris au cours Florent pour un stage d'initiation d'une semaine, qui tombe à un moment particulier de l'année, qui tombe entre le 26 et le 30 décembre 2015, je crois. Et le moment est important parce que tu sais, c'est ce moment où tout le monde est en vacances, tu es entre les fêtes, tu es un peu nulle part, tu vois, c'est une espèce de no-go zone qui n'existe pas. Il n'y a personne au bureau, bon voilà, donc il n'y a rien. Donc tu passes inaperçu. J'avais besoin de ce temps mort, en fait. Et j'ai fait ce stage et j'ai pris une claque dans la gueule phénoménale, quoi, tu vois. D'abord, j'ai une prof incroyable qui s'appelle Julie Recoing. Qui fait partie du collectif lyonnais qui s'appelle La Meute, je crois.
Ouais, je vois que ouais, tout à fait.
Voilà. Et si tu veux, Julie, elle nous a pris. Alors, parce que tu arrives là le premier jour, tu vois, j'avais 38 ans, c'était il y a 3-4 ans. J'arrive le premier matin avec que des adultes, c'était un peu un groupe adulte, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. Et tout le monde, et je me rappelle du premier exercice où elle nous dit, bon, bah voilà, vous longez le mur là, et vous venez vous présenter devant nous, et vous restez une minute face à nous sans bouger. Et putain, on a fait ça et j'ai l'impression que j'étais tombé dans un bain d'acide parce que d'abord, pour la première fois, si tu veux, j'étais dans l'univers du reportage, du documentaire, de la télé depuis plus de 15 ans, donc tu as tes habitudes, tu es quelqu'un dans ton domaine. Et là, je sortais, j'étais un anonyme, j'étais personne, si tu veux. Et ça, c'était assez bluffant. Et donc, on a fait ce stage, on a tous terminé bien en pleurs à la fin après avoir joué un peu de Tchekhov. Comme on le pouvait. Et c'est vraiment une nana qui m'a mis un virus, si tu veux. Et je me suis dit, ça peut pas être. En sortant de ça, je me suis dit, ça a été tellement puissant, ça m'a tellement ébranlé que il y a quelque chose, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'avais fait un stage, je sais pas moi, de couture ou un autre truc, enfin, quel que soit là. Donc c'est vrai que je me suis pris au jeu. Du coup, j'ai refait un autre stage derrière au Samovar, où j'ai fait un stage de clown. Parce que l'intitulé m'avait emballé, il y avait marqué un truc, je sais plus ce que c'était, qui disait oser le bide. Et je me suis dit, mais c'est génial, parce que si tu peux oser le bide, derrière, tu peux tout faire. Et en parallèle de ça, on a travaillé un petit peu avec Thibaut, tu vois. On a repris le texte, et puis et Thibaut, il donnait des cours pour des amateurs à ce moment-là, dans le 20e, au centre Ken Saro Wiwa. Et il m'a dit, écoute, en juillet, on va se prendre une semaine tous les deux. On va se faire une résidence. Moi, je savais même pas ce que c'était une résidence. Quand il m'a dit, on va faire une résidence, je croyais qu'on allait aller au Crous, tu vois. Et on a fait une résidence, il m'a dit, écoute, on va aller tous les deux sur le plateau, et on va lire un peu ton texte, comme ça, à haute voix, on va voir ce qui se passe. Si c'est bien, on poursuit. Si c'est pas bien, bah écoute, moi je retourne au théâtre, toi tu retournes à la Téloche, et puis on se prend un café, quoi, tu vois. Et en fait, on est monté sur le plateau, et puis là, il y a un truc qui est né. Il y a un truc qui est né. Il y a un truc qui est né parce que, d'abord, j'étais dans une réflexion où je me suis dit, il y a 4-5 ans, non, il y a plus, pardon, excuse-moi, en 2011-2012, j'ai fait un documentaire sur Usain Bolt, le sprinteur jamaïcain que j'avais accompagné pendant un an, et c'est un film qui a été diffusé au moment des Jeux Olympiques de Londres, qui a eu son petit succès à l'époque. Et moi, c'était un truc que je rêvais de faire depuis longtemps, de faire un grand doc sur un grand champion, etc. Et je me suis dit la chose suivante, je me suis dit, mais comment, pourquoi dans mon existence, j'ai pu croiser deux êtres aussi différents? À ma gauche, Usain Bolt, le champion, l'homme le plus rapide du monde, les muscles, la vitesse, 9 médailles d'or olympique. Et à ma droite, notre fils, Roman, tu vois, 1,690 kg, génétiquement pas tout à fait comme nous, avec ses gènes à lui, pas puissant, et finalement, dont le seul rapport à la vitesse aurait été sa courte existence. Et en mettant finalement ces deux destins en parallèle, je me suis dit, mais je suis un peu le trait d'union entre les deux. Quoi en faire? Et c'est comme ça qu'est née une des scènes les plus importantes. En fait, ça m'a donné l'idée de raconter l'accouchement de ma femme à travers l'épreuve du 100 mètres, le sprint que c'est. Et de ce tableau-là, du sport, ben, on est venu un deuxième. Parce que tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est pas mal le sport. D'abord, le sport, c'est quelque chose que je connaissais bien, parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. J'avais un père qui était journaliste sportif, qui a dirigé 11, qui était le magazine que tout le monde adorait dans les années 80, les années Platini, etc. Donc, j'ai vécu dans cette ambiance, si tu veux, de coulisses de stade, de champions, de médailles d'or, de Jeux olympiques. C'était mon univers. J'étais plus jeune journaliste sportif. Quand j'avais 20 piges, c'est ce que je voulais faire. Tout le monde avait vu les yeux dans les bleus, tout le monde voulait faire les yeux dans les bleus, tout le monde voulait filmer les coulisses dans les vestiaires, les machins, etc. Donc moi, j'avais 20 ans quand c'était les yeux dans les bleus, mais ça m'a formé, j'ai pris une claque. Si tu veux, donc c'est pour ça que je me suis dit, écoute, il faut prendre un matériau que tu maîtrises. Et le sport était certainement le matériau que je maîtrisais le mieux, à la fois un peu dans son histoire, dans les connaissances que je pouvais en avoir, des champions, des faits, etc. Puis à la fois dans la maîtrise. Parce que je suis pas musicien, je suis pas artiste peintre. Et j'avais été impressionné quand j'avais vu les chatouilles d'Andrea Bescond, à quel point elle avait utilisé sa force, qui était la danse, pour raconter les moments les plus graves, tu vois, de son histoire. Et du coup, je m'étais dit, bon, utilisons le sport pour faire passer les moments les plus durs. Parce que de toute façon, ça a été les moments les plus durs et ça a été à chaque fois des épreuves. Donc après, c'est le marathon des examens médicaux. Après, c'est la boxe, parce que c'est l'affrontement avec la médecine. Hein. Quand tu rentres dans une salle et ce que les médecins appellent l'annonce, le protocole de l'annonce, c'est un moment où tu vas te prendre une beigne dans la gueule terrible. Soit parce qu'on va t'annoncer un décès, soit parce que les gens vont t'annoncer que t'es malade. Enfin, tu vois, c'est un protocole très particulier qui a été développé en France et qui est bien meilleur que ce qui était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu t'assieds, on disait, bon, vous avez un cancer, 2 mois de chimio, vous allez mourir, quoi, tu vois. Les gens, ils repartaient avec ça chez eux. Et les médecins ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès autour de ce moment de l'annonce, qui est un moment particulier dont tu te souviens toute ta vie, mais tu te fais quand même, tu prends un bus en pleine tête, quoi. Tu vois, sans le voir venir, tout d'un coup, tu traverses et chou, boum. Puis après, l'escalade, parce qu'on a été vers, effectivement, un accompagnement de fin de vie, donc ça a été une montagne à gravir. C'est comme si tu faisais le Mont Blanc, en basket sans piolet, tu vois. C'est plus difficile que si tu as des chaussures de randonnée et un guide. Donc voilà, si tu veux, un peu comment tout ça est né. C'est vrai que dans cette semaine de résidence, toutes ces idées-là sont nées. Et là, ça a été un moment extrêmement jouissif.
T'as répondu à beaucoup de questions que j'allais te poser en amont, mais c'est très bien. Mais moi, ce qui m'épate, c'est ce temps qui est très court entre le deuil que tu as et tout d'un coup, ou peut-être que, enfin, c'est ça aussi, en tout cas dans ma définition, la résilience, c'est que dans le coup qu'on prend, il y a une énergie, et cette énergie, quoi en faire en fait? Et t'en as plein qui se laissent bouffer par cette énergie et qui servent de cette énergie pour s'enfoncer dans le lit, dans le mur, dans tout ce que tu veux, dans l'alcool, etc. Chez toi, il y a une énergie qui finalement rapidement te pousse à créer et à créer quelque chose qui n'est pas du tout dans ton confort, comme tu dis si bien, de l'audiovisuel, mais d'aller un chemin qui n'est pas le tien à la base. Et moi, je suis vraiment épaté du timing qu'il y a, parce que quand j'ai vu le spectacle, je me dis, putain, c'est un mec, ça, il nous raconte un truc, ça lui est arrivé il y a 10 ans, 20 ans, il a eu le temps d'encaisser. Et finalement, ça reste quelque chose de finalement très récent.
Ouais, alors si tu veux créer, faire, jouer, j'ai transformé l'énergie, mais la souffrance, elle est là encore, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tout d'un coup c'est mis en scène que ça a enlevé. D'ailleurs, pour preuve, tu vois, j'ai joué hier à l'œuvre et j'étais un peu fatigué. Je me suis cogné un zona là pour la deuxième fois en 2 ans. tu vois, donc pour te dire à quel point le corps il continue d'encaisser, de digérer, de malaxer tout ce jus intérieur là. Je l'ai transformé parce que immédiatement, si tu veux, est-ce que c'est dans ma nature? Je crois qu'il faut respecter aussi le temps de chacun et le chemin de chacun. Et il n'y a pas de meilleur chemin qu'un autre. Il y a celui que tu vis et celui que tu peux prendre. Et chacun, après, a ses aptitudes, son parcours de vie précédent, actuel, à venir, tu vois. Donc, ça, c'est très personnel sur la rapidité du truc. Ce qui est certain, si tu veux, c'est que très vite, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je fasse de cette histoire quelque chose. Je ne pouvais pas penser que je ne pourrais rien faire de ça. Ce n'était pas envisageable pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Si j'avais pas fait un truc, j'aurais fait un 45 tours, j'aurais fait une peinture, j'aurais fait. Tu vois, il y avait.
un 45 tours, et je pense qu'il y avait un vrai tube à faire quand même. C'est dommage.
Avec le retour du vinyle. Non, mais tu vois, il y avait une espèce de force intérieure qui m'a dit, mais tu peux pas prendre un coup pareil dans la gueule et que ça, et juste que ça t'assoie par terre. C'est pas possible. C'est pas possible.
Et est-ce que justement à la sortie de cette résidence, tout ça, à quel moment vous vous êtes dit, bon allez, hop, ça y est, ça va être un spectacle, je me lance, et la première date, elle s'est passée où?
Alors là, on est en juillet et d'abord, on a tellement modifié la matière de ce qu'était cette fameuse chronique de départ, où là, on avait enfin écrit des tableaux très simples, on avait fait un travail vraiment hyper clair avec des verbes naître, concevoir. On avait une douzaine de verbes comme ça qui étaient autant de chapitres du puzzle. Et là, j'ai vraiment eu le besoin d'aller m'isoler pour écrire. Et donc, au mois d'octobre, pendant les vacances de la Toussaint, et parce que là, ça me consumait vraiment. Là, c'était un moment où ça me brûlait intérieurement. Et là, je suis parti à Cancale chez des amis qui m'ont accueilli pendant 5 6 jours, dans la petite chambre de leur maison. J'avais vu sur la mer, j'étais dans un endroit somptueux. Et là, j'ai écrit pendant 5 6 jours. Et ça m'a fait vachement de bien. C'est d'ailleurs là que j'ai eu le titre. Et je me suis aussi autorisé pour la première fois à imaginer des scènes plus onériques, tu vois. Parce que j'étais très coincé dans le réel, comme je venais de ce matériau journalistique documentaire, que j'adore, si tu veux, et qui a été ma patte pendant, enfin, mon univers pendant 20 ans. J'avais beaucoup de mal à m'en extraire. Et c'est comme ça que j'ai réussi, là, dans cette petite chambre à Cancale, à tout d'un coup imaginer autre chose. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le titre du spectacle m'est venu. Parce qu'au début, le titre, c'était, je crois que c'était 13 jours, une vie, ou quelques jours sur Terre. Et en fait, c'est en imaginant une discussion imaginaire avec mon fils que le titre, Tu seras un homme papa, m'est venu. Et il m'a claqué au visage comme ça. Et là, je me souviens, il était 1h du mat, j'écrivais encore, et là encore, moment de jouissance, parce que tout d'un coup, tu as des idées qui t'arrivent, tu vois, que tu retrouveras plus après. Après, tu rentres dans autre chose, je trouve, tu rentres dans d'autres choses, tu rentres dans de la répétition, tu rentres dans de la physicalité, dans de la verticalité, tu vois, dans un tempo. Mais là, t'as un truc d'écriture qui est très brut et qui est vraiment assez assez passionnant. J'avais jamais vraiment écrit comme ça. Donc j'ai compris pour la première fois que l'écriture pouvait te sauver. Tu sais, moi des fois je voyais des mecs à la télé, ils disaient ah ouais l'écriture m'a sauvé et tout. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils racontent ces mecs-là ? C'est quoi le truc ? Et 20 ans plus tard, un peu moins bête, j'ai compris ce que ça voulait dire.
Et à partir de là, la première date, elle a eu quand ?
Alors là, on est en octobre et 3 mois plus tard, on est accueilli par Laurence Roussy au Théâtre de Belleville, que Thibaut connaît bien, ouais. Parce qu'il y a joué son spectacle, Monsieur Belleville, il y a 5-6 ans. Il nous accueille et me voilà à 16h, en plein après-midi, en pleine semaine, avec une vingtaine de personnes dans la salle, ma femme qui voit le texte pour la première fois, enfin qui l'avait lu, qui avait lu plusieurs versions. Entre temps, j'avais fait lire quand même à plusieurs personnes, tu vois, des gens un petit peu de l'univers de la fiction en télé, je voulais avoir, voilà, je me disais, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être une fiction? Est-ce que ça peut être... Puis les gens me disaient, ah ouais, c'est fort et tout, voilà. Et je pense qu'ils maîtrisaient, ils mesuraient pas encore ce que je savais déjà, c'était ma capacité sur le plateau à mettre une énergie. Donc les gens lisaient le texte, mais c'était assez plat, en fait, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas la dimension de résilience que tu as sur scène. Oui, puis de résilience, parce que je reviens à ton départ tout à l'heure. Ce mot de résilience, la résilience du personnage, elle se fait sur la scène. C'est parce qu'il nous raconte ça et qu'il est en train de le revivre devant nous qu'il y a un phénomène de résilience. Quand tu lis le texte, qui est, je pense, bien, mais il est à 50% de ce qu'est le spectacle à la fin, parce qu'il y a toute cette dimension physique que tu ne vois pas quand tu lis. Alors, il y a les didascalies, etc., mais c'est pas assez puissant dans la manière dont le corps arrive à l'usure.
Et pour toutes les personnes qui l'ont vu ou toutes les personnes qui ne l'ont pas vu et qui nous écoutent en ce moment, il y a un passage, moi, qui m'a soufflé. Alors, on parlera physique un peu après, parce que je suis très passionné de ça, tu le sais. Tu prends une corde à sauter, tu commences à sauter à la corde, et ça dure... Moi, j'ai le sentiment que ça a duré 3 minutes, peut-être que ça
c'est
dure,
ça, c'est ça,
voilà,
c'est
ça dure 3 minutes, et tu sautes à la corde pendant 3 minutes, sans te gaufrer, torse poil, avec un corps d'un métabolisme assez haut, on dira, pour pas dire sec, et tu sors ton texte avec une vraie justesse, t'es pas essoufflé du tout. Personnellement, je fais énormément de sport. Quand je saute, quand j'arrive déjà à faire à peu près 10 ou 15 sauts à la corde, j'ai l'impression d'avoir couru à peu près 300 ou 400 mètres. Ça, c'est déjà aussi une performance physique incroyable.
Ouais, la corde à sauter, c'est toujours un peu le mythe du boxeur, du truc. Souvent, les gens me disent, oh là là, la corde à sauter et tout. Très honnêtement, c'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur parce que le geste est finalement, il est pas si épuisant que ça par rapport, tu vois, à la scène de la boxe ou la scène du marathon qui sont plus intenses de par les contraintes aussi du plateau. Mais c'est là où ça a été certainement aussi une de mes forces, c'est de m'appuyer, voilà, là-dessus, sur, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du 400 mètres pendant des années, donc j'ai toujours un peu conservé une bonne caisse, et puis là, de m'y remettre, ça m'a donné une vraie, ça m'a remis en marche aussi physiquement, tu vois, ça m'a permis de me recentrer sur mon corps aussi, d'évacuer aussi cette douleur par le corps. Parce que moi, quand mon fils est mort, si tu veux, j'ai très peu pleuré, j'ai tout pris dans le corps, j'ai tout pris dans le bide, tu vois, j'ai eu des mal au ventre pendant avant de parler de résilience, il y a des mois de souffrance, des mois de déprime, de la douleur, ça vient n'importe quand, n'importe comment, il n'y a pas de règles, il y a tout d'un coup, paf, tu te prends une baffe dans la tête, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu vois, donc t'es fragile, tu te prends un peu le truc des uns, des autres, t'as ta famille à gérer, le boulot, donc bon, c'est pas simple, tu vois, ça vient toujours là quand tu t'y attends pas, etc. Donc, ça m'a permis aussi, si tu veux, de me remettre physiquement en marche d'une certaine manière. Et donc, pour revenir un peu au calendrier, on fait cette date à Belleville, qu'on appelait encore lecture à ce moment-là, parce qu'on voulait être vraiment, on voulait montrer qu'on était dans un processus de création, coup de date comme une première date, d'une première lecture d'un mec qui a jamais fait de théâtre et qui porte un texte sur la mort d'un enfant, si tu veux. Donc, Sroussi, il est sorti de là et il a dit non, mais c'est... Voilà, je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit oh là là, c'est de l'eau, quoi, un truc comme ça. Je pense qu'il n'avait pas perçu derrière ce qu'il y avait, forcément. Et 15 jours plus tard, on a fait une date là dans le centre où on avait fait la résidence à Kensaro. Là, il y avait 70 personnes, des collègues, des amis. Et là, déjà, c'était monté d'un cran et on voyait qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Et en sortant de ça, on s'est dit bon, et si on allait à Avignon, quoi, tu vois, c'est là, je crois que la première fois que le mot est sorti, mais on était déjà en février. Toutes les salles sont complètes. Et là, je sais plus comment, je sais plus comment Baquet reçoit notre mail, hein, avec un bout de captation qu'on avait enregistré un soir, genre 10 minutes, un peu d'image, comme ci, comme ça. Et Erwan Daoufar, tu sais, qui a joué Cendre l'année dernière et qui est un ami de Thibault, dit un mot dit un mot sur le spectacle, qui nous avait filé pas mal un petit coup de main en accompagnement, Erwan, et du coup, il parle à Stéphane Baquet, ou Stéphane Martel, à l'époque, je sais plus lequel des deux Stéphane. Et puis les gars ont une place, quoi, tu vois, un créneau, et je me souviens que Baquet m'avait dit au téléphone, tu vois, je dis, mais c'est pas trop dur de venir parler de ça, il m'a dit, ne t'inquiète pas, Avignon est le lieu où on peut parler de tout.
Exactement.
Et c'est ça qui était formidable, si tu veux, pour un mec comme moi qui venait de nulle part dans cet univers, où, voilà, on lançait un compte à rebours, où, 6 mois avant, il fallait qu'on aille à Avignon. Là, on commence à organiser Avignon, et puis on répète, on sort de ce mode lecture, on enlève la table et la chaise qu'on avait sur le plateau, on intègre la corde à sauter, le marathon, la boxe, le canoë, l'escalade, on se prépare, on travaille. On fait une belle date à la commune, dans la salle d'Aubervilliers, à la mi-juin, avec une douzaine de journalistes, et là, on fait vraiment une belle date et du coup, on a plein de super papiers derrière. Donc, en fait, quand on arrive à Avignon au Ninon, si tu veux, je me rappelle le premier jour, il y avait un panneau pour, tu sais, pour les compagnies avec les textes de presse. J'avais rempli le panneau avec tous nos trucs. Alors, les gars ont un peu râlé. Bon, on en a enlevé quelques-uns, mais on a eu un super papier dans Le Canard, on a eu super papier dans Le Point. Donc, ça nous a donné de la force. Après, voilà, on était dans une petite salle qui est un peu à l'écart, si tu veux, où il n'y avait pas trop de passage. Donc, on démarre le premier jour, on fait 7 personnes à Avignon, tu vois. Le deuxième jour, je me souviens qu'on va avec Thibaut au théâtre, on a 0 réservation, tu vois. Je me dis, waouh. Et là, tout d'un coup, je prends conscience qu'on est là pour 25 dates. Et mon cerveau était tellement focalisé sur la première date, si tu veux, que je me suis dit, mais comment on va remplir tous les jours? Et puis on a fait 17, et puis on a fait 27, et puis on a fait 41, et puis on a fait 55, et puis on a fait 75 au 14 juillet, et puis on s'est maintenu sur un range. Et puis il y a eu la rencontre avec le public, tu vois, où les gens étaient, voilà, sortaient souvent émus, en pleurs. Tout d'un coup, je me suis découvert aussi, mais j'étais dans une urgence physique qui est plus du tout celle-là un an après, tu vois. Là, on va retourner à Avignon cette année, on sera à la Luna, et on n'est pas du tout dans le même, c'est moins écorché vif, tu vois. Je pense aussi qu'en travaillant, j'ai gagné en maturité dans le jeu, sans perdre forcément sur l'impact physique. Donc, ça donne quelque chose de plus équilibré, de moins à la vie, à la mort, que c'était l'année dernière. Tu vois.
Depuis quelques années, il y a plein de sujets tabous qui deviennent des spectacles. Et évidemment, je parle des chatouilles avec Andrea, et je parle aussi de ma ligne avec
Noémie Caillot.
Est-ce que toi, en voyant ça, ce sont des choses qui t'ont permis de dire, tiens, est-ce que ça a nourri ta réflexion en te disant,
je peux aussi en faire un spectacle? Mais complètement. Alors, il se trouve que je voulais en faire quelque chose avant de voir les spectacles. Donc, comme j'étais pas non plus un passionné théâtre, et je ne le suis pas, je n'ai pas demain vocation, hein, tu vois, je sais pas, on verra ce que l'avenir me réserve, mais je lis pas Beckett, je lis pas Godot, je lis pas Molière, si tu veux, tous les jours, je suis pas un passionné. Mais du coup, j'étais au théâtre effectivement beaucoup là ces deux dernières années, et quand j'ai vu le spectacle de Noémie d'abord, puis d'Andrea, je me suis dit, en tout cas, j'étais à une certitude, c'est que je me suis dit, il y a une place pour mon spectacle, ça c'est certain. Il y a une place pour ça. Il y a une place aussi pour ça parce que c'est raconté par un père que je pense que c'est rare aussi que les hommes s'emparent de ces sujets, tu vois. Hier, il y a un monsieur qui m'a dit au théâtre de l'œuvre, qui est venu avec un copain. Il m'a serré la main à la fin. Il m'a dit, c'est la première. Je sais pas, il doit avoir 65 ans, facile. Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je vois un homme accoucher. Et c'était marrant comme remarque. C'était assez beau, je trouve. Et Et voilà, je pense qu'il y a aussi, voilà, il y a des hommes qui peuvent s'emparer de ce sujet. Après, c'est sûr que c'est un sujet tabou, mais c'est parce que c'est un sujet tabou qui doit venir dans la cité. C'est ça qui est important. C'est aussi pour offrir ces espaces-là, mais c'est très dur. Je comprends qu'il y a des gens qui soient complètement hermétiques. Il faut les entendre aussi. Il faut entendre leurs craintes, leurs douleurs. Moi, je pense que ce spectacle, il s'adresse pas qu'à des gens, bien sûr, et heureusement, qui ont perdu des enfants. Tu sais, en France, il y a 700 000 naissances par an. Et les statistiques disent qu'il y a à peu près 2 500 enfants de moins de 1 an qui décèdent par an en France, ce qui est très très peu. Tu remontes 50 ans en arrière, 1 000 ans en arrière, 5 000 ans en arrière,
Ouais, bien sûr.
t'es dans d'autres proportions. Donc, si tu veux, on est aussi à un moment où le moment de la naissance, c'est un moment fragile, c'est un moment de fragilité. Et il faut faire avec. Tout ça pour dire que je pense que parce que la naissance est un moment fragile, il n'y a pas une seule famille en France, si tu veux, qui a eu un enfant et qui n'ait pas eu un moment des craintes ou des difficultés. Soit pendant la conception, soit pendant des échos où tout d'un coup on a toujours un peu peur. Quand tu vas faire une échographie, t'as toujours peur, t'as vraiment envie qu'on dise que tout est bien normal, tu vois. C'est au moment de la naissance. Il y a des fois des gens dont le bébé va aller peut-être une journée ou deux en couveuse, tu vois, c'est pas grand-chose, mais c'est des choses qui marquent quand même. Voire un séjour en néonatologie. Pas jusqu'à aller au décès, mais voilà. Donc si tu veux, tout ça, ce sont aussi les enfants qu'on n'a pas eus, les fausses couches. Et tu t'aperçois, et moi je l'ai vu dans le spectacle, en discutant avec les gens, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui me livrent. Vous savez, elles veulent partager avec toi aussi leur douleur. Vous savez, on a vécu ça. Ou souvent on me dit, ah, c'était pas aussi grave que vous, mais voilà, il nous est arrivé ci, il nous est arrivé ça. Donc si tu veux, je pense que c'est bien. Et puis après, chacun est libre, chacun vient voir le spectacle s'il a envie de venir le voir.
Alors, dans le Lloydcast, il y a une deuxième petite tradition. C'est un personnage fictif, c'est une petite souris. Si je suis, enfin, si la petite souris vient voir une journée de Gaël, qu'est-ce qu'elle va voir? Alors, peut-être particulièrement les jours où tu vas jouer ce spectacle, qu'est-ce qu'elle va voir dans la journée, dans ta préparation, etc.
Écoute, je crois que le moment le plus fort, c'est le moment avant de monter sur scène, là. Le dernier quart d'heure, où il y a une espèce de densité, très forte. Hier, j'étais avec Eric, le régisseur de l'œuvre, et j'étais content d'être à ses côtés parce qu'il a une stature et quelque chose de très rassurant. Et en même temps, je me disais, c'est incroyable parce que tous les jours, il doit y avoir des mecs qui montent sur scène comme ça, qui doivent avoir peur avant. C'est un moment, c'est un endroit très particulier. Il m'a vu dans une posture que certainement peu de gens m'ont vu. Donc je dirais, si j'étais la petite souris, je lui conseillerais de venir à ce moment-là, parce que le moment où tu sors de ta loge et où tu fais les 20, 15 mètres, tu montes un là à l'œuf, faut monter 2 étages, là, t'es déjà quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a une espèce de truc, et en même temps, t'es pas encore dans le jeu, tu vois. T'es en moment de faiblesse, hein. C'est intéressant. Il est intéressant, ce moment-là, à vivre. Le moment que tu vis avant, seul, il est tout aussi fort que ce que tu vis pendant et après, tu vois. Il y a une espèce de truc assez incroyable, je trouve.
Et justement, est-ce que dans la préparation de ton spectacle, est-ce que tu dois t'échauffer beaucoup? Parce que c'est ultra physique quand même tout ce que tu fais.
Ouais, alors sur Avignon, sur Avignon, on jouait à 11h25 l'année dernière, donc on a eu un mois où on était extrêmement, on était réglé, quoi, hein. 7h30, c'était le réveil, petit déj tout de suite, et on allait au théâtre vers 10h, et moi je commençais à m'échauffer 3 quarts d'heure avant. Voilà, réveil articulaire, musculaire, montée en puissance, quoi, bien revoir un peu tous les passages physiques, bien se remettre un peu dans les mouvements, dans les. Voilà, le matin c'est toujours un peu dur parce que t'es un peu raide, tu vois. Surtout à partir de 40 ans, tu commences à être un peu raide le matin, hein, Julien, tu sais.
Je vois pas de quoi tu parles.
Donc j'espère que cette année, en jouant à 17h25, je serai plus fluide. Et puis voilà, on s'est fait un mois vraiment. On n'est pas sorti, hormis le petit resto du soir pour se détendre. Si tu veux, on n'a pas bu d'alcool. Parce que moi j'ai fait attention, tu vois. Je faisais très attention à ça et je voulais surtout pas me blesser, pas me faire mal. Donc j'ai repris un peu mes habitudes de quand j'étais athlète 20 ans plus tôt. Donc, ouais, je me massais les mollets tous les soirs. Je faisais gaffe, quoi. Ouais, je faisais gaffe. Beaucoup d'étirements, beaucoup de. Avignon, c'est un marathon aussi, hein. Donc, il faut tenir sur la longueur. Et je savais, avec, même si sans l'avoir jamais fait, mais avec l'expérience un peu de vie, que ça allait être long et que tu peux perdre beaucoup de plumes au départ. Donc, voilà, c'est les 10 derniers jours qui sont très importants aussi. Et c'est là où il commence à y avoir un bouche à oreille, où les pros viennent. On a beaucoup de gens importants donc, qui sont venus dans les 10 derniers jours et il fallait être au top à ce moment-là, tu vois.
Aujourd'hui, qui produit ce spectacle?
C'est moi qui le produis intégralement, avec aussi l'appui de la compagnie des 13e, qui est la compagnie de Thibault. Donc c'est un financement personnel, largement à perte pour le moment, hein, il faut le savoir, puisque Avignon, c'est quand même un endroit où on perd plus d'argent, mais en tout cas, moi, j'en ai perdu l'année dernière. J'espère que cette année, on arrivera à faire un Avignon à l'équilibre, parce que voilà, on n'a pas les frais de création, etc. Mais bon, c'est quand même un mois sur place, il y a des dépenses, il faut. Voilà, donc. Mais cette année, on a une chargée de diffusion avec nous, donc j'espère aussi qu'on va pouvoir avoir quelques dates derrière.
Et je pense qu'au fur et à mesure aussi du bruit que ton spectacle va faire, entre cette date que tu as faite hier, donc le 4 juin à l'œuvre, et l'Avignon qui va venir, plus le Lucernaire à la rentrée, mais ça on en parlera à la fin, tu risques de te faire voir de certains producteurs qui voudront rentrer dans l'histoire avec toi aussi.
Ouais, écoute, c'est possible. C'est vrai que il se trouve que je suis déjà producteur moi dans mon job, donc j'ai une vision de la production qui est celle de l'audiovisuel, qui est totalement différente, c'est certain. J'étais en contact l'année dernière avec deux trois producteurs au retour d'Avignon, mais où j'étais dans des conditions qui m'intéressaient pas, notamment parce que c'était des producteurs qui voulaient récupérer la production à 100%. Et ça, pour moi, c'était inconcevable, pour deux raisons. D'abord, parce que j'avais commencé à investir pas mal d'argent, si tu veux. Donc, il y a un moment, tu dis, tu peux pas avoir investi une fois que ça marche. Il y a quelqu'un qui arrive et qui te prend tous tes droits de producteur. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que c'est un spectacle très particulier, qui est le spectacle autour de mon fils, si tu veux, et que je veux en être garant à 100%.
Bien
Donc, je veux
sûr.
pouvoir choisir de la taille de la typo des flyers jusqu'à la tranche et la couleur de la tranche des posters 40 par 60. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et je veux pas un moment devenir, non pas esclave, c'est pas le bon mot si tu veux, mais en tout cas, je veux pas en tout cas devenir dépendant sur ce spectacle-là en particulier. Si demain je fais une autre création, si demain je raconte autre chose, pourquoi pas? Mais pas sur ce spectacle. C'est un spectacle, si tu veux, qui est trop important à mes yeux,
Bien sûr,
à
bien
titre
sûr.
personnel, pour ma famille, pour ma femme. Je dois être capable de pouvoir l'arrêter du jour au lendemain, comme ça, si un jour je décide que ce que je fais sur scène n'est plus en relation avec l'état d'esprit du projet du départ. Et je veux pas tout d'un coup être coincé avec un producteur qui me dira, Coco, demain tu pars à Brest, là on a vendu une date, il faut que tu me la sortes, et c'est ton engagement, tu vois ce que je veux dire. Donc ça me met dans une position, voilà, un peu particulière, qui est certainement inhabituelle vis-à-vis du milieu que je découvre, qui est un milieu qui est pas facile, où il y a des gens qui ont une grande passion, une grande conviction et en même temps très peu d'argent, donc une grande précarité. Et voilà, il faut faire aussi avec tout cet environnement-là.
Alors, on va terminer cet épisode avec une petite série de questions que je pose à tous mes invités, si tu y réponds aussi rapidement que possible. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction?
Si je gagne au loto, je me dis le gros challenge de gagner au loto, je pense, c'est de poursuivre sa vie en essayant absolument de pas devenir con. C'est un gros challenge. Je pense qu'il y a une forme de responsabilité. C'est comme les super pouvoirs des Marvels, tu
Ouais,
vois.
très bien. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une chanson qui a changé ta vie?
Je crois qu'il y a des films d'enfance qui m'ont marqué. J'ai montré à mes filles la semaine dernière pour la première fois Karate Kid, qui a vraiment très très mal vieilli. Je me souviens que c'était un film qui m'avait vachement touché, comme toute la série des Rocky. Et je me disais l'autre jour en le regardant avec mes filles, mais pourquoi ça m'a touché quand j'avais 10 ans, Karate Kid? Et je me suis dit qu'en fait, Karate Kid ou Rocky, c'est des mecs qui se sont fait eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Mais
J'ai compris.
Rocky, ça n'a pas mal vieilli.
Non, Rocky, ça n'a pas mal vieilli. Là, on est
Voilà.
d'accord,
Ouais,
Lilian, on marque un point tous les deux. Mais Karate Kid, ça a mal vieilli. Et je me suis dit, mais pourquoi? Mes filles ont bien aimé, tu vois, mais je me suis dit, mais pourquoi ça m'avait touché à 10 ans? Et finalement, tu te dis, bah, ce gamin-là qui essaie de se battre, de se défendre, bah, il s'est fait tout seul. Et je crois que c'est ça qui m'avait marqué, mais je ne l'avais pas compris il y a 30 ans.
Si tu ne faisais pas le métier que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais?
Je ferais tout pour faire le métier que je fais aujourd'hui.
Quel est ton plus bel échec?
Ça, c'est une bonne question, mon plus bel échec. J'espère que mon plus bel échec, il n'est pas encore passé. Pour que je puisse en profiter pour rebondir encore.
Quel est ton endroit préféré au monde?
Chez moi, avec ma femme et mes enfants.
Il y a un mot américain qui s'appelle le motto, qui est un peu la motivation au quotidien, qui est une sorte de devise. Est-ce que tu en as une?
J'aime beaucoup une phrase qui dit « On ne peut pas faire l'économie du chemin ».
Et enfin, quel est ton mot préféré?
Merci.
Ton actualité, ça va être donc Avignon dans un mois. Tu es au Théâtre de la Luna, dans la salle 3.
Ouais, 17h25, du 6 au 29 juillet.
Voilà. Puis, il y aura aussi Paris à la rentrée.
Le Lucernaire, chez Benoît Lavigne, avec toute son équipe, on est accueillis dans la petite salle du Paradis, du 24 octobre au 8 décembre, du mardi au samedi à 21h. Et je suis vraiment content d'être dans cette salle parce que c'est une petite salle très intimiste avec un plateau rectangulaire qui va pouvoir
Qui est un grand
permettre de
plateau,
faire de belles choses.
rectangulaire, qui est un grand plateau,
Ouais,
qui est
c'est un
une
grand
très.
plateau. Et la première fois qu'on m'a dit, tu sais, il y a une salle au Lucernaire qui s'appelle le Paradis, je me suis dit, c'est là que je veux jouer. Je sais
Bah,
pas, le nom de la
évidemment.
salle m'a branché direct, tu vois.
Évidemment. Est-ce que tes filles ont vu le spectacle?
Oui, bien sûr, bien sûr. Elles étaient là à l'œuvre. Les deux grandes, elles étaient là à l'œuvre hier. Elles l'avaient vu une fois à Avignon. Écoute, ça fait partie aussi de cette aventure. C'est que mes deux grandes, ma femme, ont participé un peu à toutes les étapes. Il y a eu, depuis l'écriture, les différentes lectures. Il y a eu un peu le choix des photos qu'on a fait l'affiche. Il y a les flyers qu'on ramène à la maison. Il y a les affiches qu'on montre. Il y a les répétitions à la maison quand on pousse la table avec les copains et qu'on se fait une part de pizza et tu vois que tout le monde est là. Si tu veux, ce spectacle, il existe aussi parce que ça a donné une place à Roman, tu vois. À notre fils, ça lui a permis d'avoir, mais pas du tout comme un mausolée ou comme quelque chose de dire, bon, faut qu'on le mette quelque part. Non. Ça fait partie à travers ce spectacle. C'était un moment aussi quand le spectacle est né, où finalement, un enfant qui vit très peu de temps comme ça, t'as pas beaucoup de souvenirs. Si tu as peu de souvenirs. T'as peu de souvenirs d'abord parce qu'il s'est pas passé longtemps, et ensuite il s'est pas passé grand-chose. Dans le sens où tu dis pas, bah tiens, tu te souviens de ce voyage qu'on avait fait, tu te souviens. Non, il n'y a pas ces souvenirs-là. Donc rapidement, si tu veux, pourtant on est dans une famille où il n'y a pas de tabou, où on peut parler tout, où les gens sont plutôt bien réveillés, mais à un moment tu parles plus de ça parce que les gens veulent plus t'en parler, ils savent pas si ça va te faire du mal, pas te faire du mal, c'est jamais le bon moment, etc. Donc petit à petit, tu ne parles plus en fait de l'absent. Et ce projet théâtral, au fur et à mesure de sa construction, de tous ces petits moments de vie là que je te raconte. Eh ben, il a remis un peu de lien, il a remis un peu, tu vois, d'huile, un peu d'essence dans le moteur, et puis on en reparlait. Alors, on parle pas de la même chose. On reparle pas des 13 jours qui se sont passés. On se dit jamais, tu te souviens quand? Ben non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Mais ça a pris une autre forme.
Bah, en tout cas, Gaël, merci pour ce moment passé ensemble.
Merci beaucoup, Lilian. C'était un plaisir de converser comme ça. Un petit peu tard dans la soirée, j'allais pas dire dans la nuit, mais en tout cas dans la soirée, ça.
Ouais,
On a fait un bon voyage.
on l'a un petit peu entamé. Non, non, mais vraiment merci parce que encore une fois, moi je dis c'est un spectacle magnifique, bouleversant. Voilà, il y a plein de choses dedans. En tout cas, pour toutes les personnes qui écoutent et qui seront à Avignon, qui voudront voir le spectacle à Paris au Lucernaire après à la rentrée, allez-y, je vous en supplie. C'est vraiment important de voir ce spectacle. C'est magnifique. Donc vraiment, merci encore de ce moment passé avec toi.
Merci beaucoup Lilian, à très bientôt.
À très bientôt. Quant à toi, la compagnie, n'hésite pas à commenter cet épisode partout où tu l'auras entendu, sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme. On se retrouve jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Salut. la compagnie.